Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce vendredi 7 octobre 2022. 20h pétante et c'est l'heure de votre émission phare. J'allais dire les informés, mais non, les informés c'est terminé. Eh oui, le lapsus avec Adil Farkan qu'on peut retrouver de 18h chaque soir jusqu'à 19h30. En tout cas, ce soir, c'est Time Sport avec toute l'équipe, avec l'Europa League. Justement, on reviendra sur nos clubs français et les 3 points pris avec les Monégasques, du moins, et aussi les Rennais. L'Angleterre face au Salaire d'Alande. On est un peu crispé face au salaire d'Erling Haaland. Vous voyez, ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. On parlera aussi sur, malheureusement, un fait qui est survenu lors du match Benfica-Paris Saint-Germain, victime de palpations insupportables selon certains supporters parisiens. On reviendra sur ce fait marquant d'aujourd'hui que nous avons appris c'est chez certains de supporters parisiens et aussi sur l'antenne de chez nos confrères. Justement, on parlera de cela. La ligne du standard, le 01 53 48 3000, excusez-moi, vous êtes ouverte. Vous pouvez nous appeler, réagir face à ça. On essaiera de vous écouter avec toute l'équipe de Time Sport. Voilà. Et on va parler aussi, justement, d'un certain Franck Ribéry. Oui, Francky Ribéry, avec la Salernitana, justement, en Italie. Selon son agent, eh ben, ça y est, c'est clap de fin pour l'ancien international français. N'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Est-ce que vous classerez Franck Ribéry dans le top 5 des joueurs français? Voilà. La parole, on vous la donne. On vous fait remporter un magnifique ouvrage aux éditions sur l'art ce soir. Avec Lewis Hamilton aux éditions Solar et avec son auteur, excusez-moi, Monsieur Ferré. Voilà, rien de plus simple. On s'en mêle un peu les pinceaux, c'est la fin de semaine, c'est le week-end. Allez, on va de suite présenter qui m'entoure tout au long de cette émission et aussi on va commencer avec le premier sujet. C'est parti.
Time Sport.
Allez, ce soir pour m'accompagner, on aura Alison avec moi. Comment ça va, Alison?
Bonsoir à tous. Ça va très bien et toi, Bilal?
Ça va très très bien. Pas trop, mais ça va. Viknesh, il est là. Ça va, Viknesh? Viknesh, il nous a fait une matrice cette semaine. Je sais pas pourquoi.
On se demande pourquoi. C'est pas ta faute en tout cas.
Ouais, c'est ta faute, Viknesh.
Non,
c'est
ta faute.
Jamais ta faute. Bon, en tout cas, le planning, tu me l'as soulevé, relevé et aplati.
Moi, j'ai l'épreuve pas écrite.
Ouais, l'épreuve pas écrite. Ouais,
ça s'est fait amplement.
Ah, ok. Et c'est prêt pour Pharaon maintenant. Kamel est juste avec nous. Comment ça va, Kamel?
Ça va très bien.
Grand retour, quand même.
Voilà, je fais mon grand retour. Non, ça va très bien. Ma rentrée, voilà, ma rentrée scolaire. Non, si, ça va. C'est un plaisir d'être parmi vous.
Ah ben justement, on aura aussi Fala.
Une bonne soirée à tous nos auditrices et nos auditeurs.
Ah ben voilà, ça au moins c'est dit. Fala sera de la partie et on accueille Mourad aussi, notre consultant. Comment ça va, Mourad?
Bonsoir Bilal, ça va très bien et toi?
Ça va très très bien, Mourad.
Ça fait plaisir de revoir toute l'équipe.
Ah ben nous aussi, Mourad, ça nous fait très très plaisir, justement. On va parler de ces clubs en Europa League, du moins avec Rennes, 2 buts à 1 hier face au Dynamo de Kiev, sans oublier aussi les Monégasques face aux Turcs, 3 à 1. Un petit mot, Viknesh? Ça va, on prend les 3 points avec nos deux clubs.
Bah, c'est le plus important. L'important, c'est les 3 points, comme d'habitude, comme on le dit très bien. En plus, surtout pour Monaco, j'aimerais bien appuyer sur la prestation de Monaco, qui est bien en ce moment. Depuis Nantes, et offensivement, ça répond. Chaque fois, on fait des erreurs défensives, ils prennent un but bêtement. Mais on voit que là, le 4-4-2 avec Ben Yedder, Ambelo, ça marche bien, ça marche mieux. Ben Yedder, il se sent bien, il est à l'aise, il est efficace, il est bon. Donc, le 4-4-2 monégasque, moi, j'apprécie. Après, pour revenir sur Rennes, oui, c'était un bon match. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas géré tant que ça, mine de rien, parce qu'ils auraient pu s'imposer mieux que ça et être tranquilles plus tôt dans le match. Ils se sont rendus la tâche un peu plus compliquée en se faisant égaliser. Mais au final, c'est une bonne prestation. Ils sont bien placés chacun dans leur poule. Là, ça peut bien se passer. Je pense qu'ils peuvent se qualifier et ils vont se qualifier les deux clubs. Et c'est la moindre des choses pour les clubs français. Enfin, pour ces deux clubs français, en tout cas Monaco et Rennes, c'est normal d'être à ce niveau-là, à ce moment-là du parcours.
Ouais. Ok, il nous a fait une fable.
Ouais. Sur ouais. Okay. Comme d'habitude,
on attend que ça termine.
Voilà,
il prend le micro.
Non,
moi,
allez,
vas-y,
Kamel.
Moi, je dirais, revoilà les clubs français en Ligue Europa et en Europa League, c'est ça? Ou je sais pas quel.
Conférence League.
Donc, voilà, non, je sais pas, ils ont compris qu'il fallait gagner, qu'il fallait jouer les matchs comme si c'était les matchs de championnat. Et voilà, et en plus pour l'indice UEFA, c'est très bien, mais moi, je pense que les clubs français là vont sortir de ces poules, surtout Monaco, Rennes aussi. Moi, Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est le jeu de Rennes, sincèrement. C'est un jeu très attrayant. Ils ont cru jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la 90e minute ou 92e minute, ils ont marqué un but. Et en plus, il faut rentrer des jeunes du centre de formation, etc. Bon, ça, c'est l'effet. Comment il s'appelle le directeur technique
Florent Maurice.
Mais voilà, mais moi, j'aimerais dire que avec Genesio, il a mis sa patte sur cette équipe de Rennes. Et s'il avait été à Lyon, il aurait fait comme Bosch, il aurait eu 4 défaites consécutives. Je pense qu'il serait plus là, mais voilà. Mais au moins, Genesio. Moi, c'est une équipe Rennes qui me plaît à voir jouer tous les soirs. Quoi.
Ouais.
Tous les 3 jours.
Alors, allez, sonnez Mourad.
Non, moi, j'ai vu un Monaco solide, un bon Monaco avec un bon
Ben Yedder
qui est très bien depuis le début de saison. On voit que quand Ben Yedder va bien, et ben Monaco justement va bien, et c'est le cas depuis le début de la saison. Ensuite, en ce qui concerne le match, effectivement, Trabzonspor a rendu un peu la tâche facile à Monaco en ayant un carton rouge Maximo Gomez très vite, hein, avec son action plus que litigieuse. Il s'essuie les crampons sur la joue d'un monégasque, donc carton rouge plus que mérité. Mais en tout cas, on a vu Monaco qui s'est fait peur, certes, parce que Trabzonspor a égalisé, mais en tout cas qui a été solide et sérieux. Et Rennes, pour moi, est toujours dans la continuité de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe plaisante à avoir joué, une équipe qui combine, une équipe qui joue vers l'avant, une équipe qui se projette aussi. Donc on voit toujours que Genesio fait un superbe travail à Rennes, qu'il est dans la continuité de ses idées. Et c'est une équipe qui tourne, c'est solide sur toutes les lignes, et ça gagne.
Alors, Mourad, on aimerait t'entendre aussi, ça fait longtemps.
Oui, ça fait longtemps et ça fait plaisir de parler des clubs de Ligue 1. Sur le plan comptable, la logique est respectée. Pour moi, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Ils ont joué, comme l'a dit Alisson, contre un Trabzonspor qui a eu un carton rouge très rapidement.
10e minute.
Nantes, on n'a pas parlé de Nantes parce que là, on dresse un tableau positif. Mais Nantes, ils ont ramené toute une armée jaune à Fribourg de l'autre côté du Rhin pour se prendre un 2-0. Certes, Fribourg est dans le top 3 en Bundesliga. Mais
leader ex aequo. C'est pas mal.
Leader ex aequo, mais ils ont joué personne encore. Donc voilà, ça témoigne aussi un peu du niveau. Ensuite, il y a eu le Stade Rennais, qu'a évoqué Kamel. Aussi, peut-être que le Bayern s'est trompé sur la pépite à choisir. Ouais. En l'occurrence, Doué qui rentre et qui fait la différence. Ils ont joué contre le Dynamo Kiev.
Oui,
je rappelle, est un club qui est peut-être le club d'un pays en guerre et qui est sans stade fixe, pour faire le parallèle, l'analogie avec 100 000 sites fixes. Donc, pas de quoi sauter au plafond. La logique est respectée. Là où on attend justement les clubs de Ligue 1, ben c'est sur les étapes précédentes, c'est sur le passage des poules en phase qualificative, en phase éliminatoire, face à d'autres clubs où là il y aura des Manchester United, il y aura des Arsenal, il y aura le gratin de la Première Ligue, le gratin de la Liga, il y aura Séville, et là il y aura des vrais clubs. Donc là, c'est là que je les attends, et pas forcément forcément là maintenant, où pour moi c'est du
ouais, mais si je peux me permettre, avant ils passaient pas les phases de poule.
Mais l'année dernière sur un plan comptable, on était aussi enjoué. On se le rappelle, on se le disait, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les autres compétitions européennes, la France, on était bon jusqu'à présent. Dans les phases de poule, on gagnait à peu près tous nos matchs, et avec la manière. Donc si on se base sur les mêmes faits que l'année dernière, pour l'instant on est bien. Après, effectivement, ça s'est écroulé plus tard, c'est-à-dire au niveau des huitièmes, des quarts, etc.
Oui,
on s'est écroulé.
Exactement.
Et il n'y avait plus personne. Et c'est là où je rejoins Mourad. C'est que pour l'instant, on est bon, mais après, il faut perpétrer et continuer cette fois-ci à être bon pour éventuellement rejoindre le dernier carré.
Personne
et pourquoi
ne
pas
en septembre ou en octobre.
Ouais, voilà,
exactement.
Oui,
d'accord.
Ah, quoique, il y a la Coupe du Monde.
Mais
on va gagner un trophée en novembre.
Alors, du coup.
En décembre même.
Ce que j'aimerais dire, même si ce n'est pas le thème, j'ai vu la conférence de presse de Galtier et qui parlait des blessures, etc., et des matchs tous les 3 mois.
Tous les 3 jours. Sur le Paris Saint-Germain.
Ouais, tous les 3 jours.
Il y en a Messi blessé d'ailleurs.
Il
partiront au quart quand même.
Mais je veux dire, tous les 3 jours.
Il est forfait pour le prochain match, non?
Non. C'est lui qui a demandé à sortir et il gère son temps. Je veux dire, Galtier disait, ouais, les matchs tous les 3 jours, plus la Coupe du Monde. Mais je suis désolé, attends, on n'est pas au mois d'avril. On est au mois de septembre, octobre.
Il y a la Coupe du Monde, Kamel, qui arrive.
Non, mais la Coupe du Monde,
Ouais, mais peut-être.
Non, mais je vais t'expliquer, Bilal. La Coupe du Monde, tu joues un match toutes les semaines, quasiment. Ouais. Hein?
Là. Mais les fédérations aussi, elles auraient retrouvé leur star en Coupe du Monde.
Oui.
Eh ben, peut-être, je sais pas, il a une pression. Hein.
Mais je veux dire.
Il est de plus haut.
Il se plaint d'un match tous les trois jours. Attends, t'es entraîneur du PSG, t'es pas entraîneur de mon club ou je sais pas quoi. Je veux dire, c'est absurde.
Il faut respecter aussi là-bas.
Plus, c'est...
C'est magnifique.
Il aurait
peut-être dû rester à Saint-Etienne.
Il aurait dû rester à Saint-Etienne. Et je veux dire, on est même pas au mois d'octobre et il se plaint.
Si, on est
d'accord. Non, mais je veux dire, on est même pas au mois d'octobre et il se plaint. Donc je veux dire, faut arrêter. Faut qu'il arrête de se plaindre.
Il est bête et discipliné.
Bah si, on est en octobre. Bah oui,
c'est bien. On est bien en octobre.
On a compris
quand même.
Oui, c'est vite, j'ai exprès.
Vas-y,
ça l'a perturbé.
J'ouvre d'esprit avec
Najamino. Toujours. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. Faut pas qu'il se plaigne, etc. Surtout qu'il est au PSG. Moi, je comprends pas le truc avec Galtier. Si on doit appuyer sur Galtier, il a les joueurs pour ça, je suis désolé. Et il a les Sarabia, Soler, Ruiz. C'est pas des joueurs qui sont, comme tu dis, dans certains clubs bizarres.
Ramos aussi.
La cité, oui, mais Ramos, il est le titulaire. Là, je parle que des remplaçants. Il a des très très bons joueurs qui sont remplaçants. Tu les fais jouer 5 minutes. C'est comme ça que tu vas les motiver. C'est comme ça que tu vas les rester. Enfin, faire en sorte qu'ils participent au projet. Justement, on a perdu des joueurs précédemment, comme Draxler, Paredes, parce qu'ils jouaient jamais. Et là, on va faire la même chose avec ces joueurs-là. Après, il faut pas se plaindre qu'on joue tous les 3 jours. Il a l'effectif, il a le matériel pour, en fait.
Octobre.
Ouais, on est qu'en octobre. Mais justement, c'est pas ça le problème. Si dès octobre, tu les fais pas jouer, les pauvres, bah après, ils vont finir dépressifs. Donc ça se comprend, en fait.
Non, mais c'est ces joueurs qui sont, tu veux la
Coupe du Monde. On va trop loin, là, avec Nash.
Non, j'avais déjà dit ça. Voilà. Mais en parlant de dépressif, on a vu Cavani qui parlait de ça. Qui est parti voir des psychologues après la remontada. Donc on sait jamais.
Quel est le rapport avec la remontada?
Je sais pas.
Non,
Mais c'est l'effet PSG.
Hein. On écoute avant la pause.
Avoir un bac plus 5 en psychologie pour comprendre Viknesh.
Non, mais voilà. Ouais, bah,
Concernant Galtier, il va à la guerre avec une balle, avec un seul système. Là, je pense qu'il est en train de découvrir son effectif et d'apprendre sur le tard. Et au fur et à mesure que les confrontations vont se durcir, je pense qu'il va être obligé
découvrir
de
qu'il a un banc aussi.
Il faut une très grosse défaite, il va comprendre.
Et de compliqué. Repasser peut-être à un milieu à 3. Et pourquoi pas sacrifier un des 3 fantastiques devant pour pouvoir avoir une assise défensive et un équilibre.
Mais moi,
ce que je veux dire, c'est que là, il est en mode test and learn. Donc, il teste et il apprend en même temps.
Ouais, moi, je te rejoins, Mourad, parce que là, je pense qu'il est... qu'il a pas la pression parce qu'il est bon en championnat, ils sont largement vainqueurs. Là les poules ça va quoi, ils vont passer. Mais je pense que quand il va rentrer en huitième de finale, en quart, etc. Il va avoir la pression, ce truc. Je pense que tu vas faire ça quoi. Ouais. Il va retirer un des 3 fantastiques. Il va solidifier sa défense.
Il va les repositionner. Je pense qu'il va enlever un défenseur.
Moi, je pense
que Kimpembe en fera les frais. Peut-être que Ramos aussi. Parce que
ou alors
Ramos,
il va repasser à 4 derrière.
Bah, c'est tout à fait normal.
Il faut acheter un défenseur central.
Alors, justement, il nous reste 2 minutes avant la première pause. Lui, il nous est arrivé, je sais pas, du côté de Medellín, nous voir Bogota. En tout cas, il est toujours au soleil. C'est le côté Tolé. Il passe nous voir avant de partir en week-end. Le coach Tolé, c'est club français, et aussi après avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on va parler du Paris Saint-Germain durant cette émission.
Ça, je pense que tout a été dit, la logique est respectée. Enfin, on a envie de dire, parce que depuis quelques saisons, c'était assez mitigé en Europa League, surtout où nos clubs français nous faisaient découvrir des clubs à travers l'Europe. Donc là, on a quand même l'avantage d'avoir parmi nos meilleures équipes françaises qui confirment. Viknesh disait que Rennes et Monaco, la logique est respectée. Il faut oublier que Rennes reste quand même une équipe nouvelle et sans expérience sur la scène européenne, alors que Monaco a connu quand même des campagnes, mais ça fait partie de ces clubs qui grandit sur la scène française. Donc c'est bien, mais comme ça a été dit, ils font le job, mais t'as envie de les voir se confronter aux gros clubs du continent, pas forcément les mastodons, mais comme l'a dit Mourad, Séville.
Voilà, une des seules confrontations qu'on a vues, c'est Nantes face à Fribourg qui est sur le podium en Bundesliga. Ils ont joué dans un stade qui s'appelle l'Europa Park Stadium. J'ai l'impression qu'ils ont trop pris au pied de la lettre le nom du parc. Ils sont partis en mode
attraction,
en mode balade, parc d'attraction. Donc c'est là les vrais tests. C'est là qu'on aimerait voir justement la Trabzon. Ils prennent un carton la 10e. Rennes, le Dynamo Kiev. Donc moi j'attends des vraies confrontations face à des vrais clubs et avec un vrai palmarès et un vrai passif.
Fenerbahçe avait joué à Rennes, non? C'est ça,
Rennes, ils ont le Dynamo Kiev, ils sont dans le groupe de Fenerbahçe. Fenerbahçe,
c'est intéressant de les voir, tu vois, par exemple à l'extérieur, comment Rennes va être capable de réagir dans ce type d'ambiance.
Allez, une courte pause que nous allons faire.
Au top, hein, oui. Rennes, hein. Gouiri, j'ai regardé. Ah bah ouais, j'ai l'impression que c'est un peu entre guillemets une merguez. Hein.
Football business.
20h14, on va marquer une courte pause. La première, avant de revenir avec la première ligue, avec Haaland, et sans oublier aussi le Paris Saint-Germain et ses supporters. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, ce soir nous sommes tout chauds comme le coach Tolé. Voilà, c'est ça, ce vendredi 7 octobre 2022, 20h et 21 minutes, avec la magnifique casquette portée par notre consultant qui n'est autre que Vic Nesh.
Il revient du golf.
Ah ben... Ouais, on revient du golf. Toi, tu vas aller au golf aussi.
Je vais aller au golf.
C'est ça, c'est ça. On est au avec aussi avec Alisson, avec Kamel et sans oublier Mourad. Voilà, voilà, nous a rejoint et on va partir du côté du Royaume-Uni. C'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, justement, il toucherait un salaire d'€1 million par semaine. C'est l'international norvégien Haaland. Près de 900 000 livres sterling par semaine. Le coach Tolé, ça c'est fou quand même.
Monstrueux.
Graham Sterling.
C'est monstrueux.
Vraiment nul.
C'est monstrueux. Maintenant, il n'y a rien de surprenant. Ça va être depuis quand même une quinzaine d'années, voire plus, que la première ligue survole à ce niveau-là. C'est vrai que ça fait mal à la tête de se dire qu'il touche autant par semaine là où t'avais encore ce type de salaire, et encore t'en as pas beaucoup qui le touchent par mois, donc
ça fait réagir nos voisins british, hein, avec tout ce qui se passe. On le rappelle, dès demain il y aura des manifestations dans tout le pays.
Dès que ça touche le football, ça fait réagir. Par contre, les golfeurs, la Formule 1, la NBA, ce que tu veux, il y a pas de manifestation. Voilà. Dès que c'est le football,
je crois que 900 000, je crois même un golfeur,
non, même un genre pilote de F1, il gagne plus 50 millions d'euros.
Je sais pas, avec
je ne dis pas. Déjà, d'une part, lui, il y est pour rien, et puis il confirme sur le terrain. De deux, c'est le full business, c'est comme ça, malheureusement. Voilà, on dit pas qu'on est d'accord avec ça, mais c'est une réalité. Mais je le dis encore une fois, lorsqu'il s'agit d'autres sports qui ont toujours généré autant d'argent, on n'en parle pas.
Ouais, merci le coach Tolé. On va passer à Alisson alors.
Claude dit que on dit pas qu'on est d'accord avec ça, mais moi je le dis, je suis d'accord avec ça. Faut pas oublier que faut pas être démago dans la vie. C'est-à-dire que on peut pas comparer la réalité du football avec la réalité notre réalité entre guillemets. Le football c'est spécial, c'est-à-dire que ça engendre énormément d'argent. Donc Haaland gagne ce qu'il engendre comme argent. C'est-à-dire que au niveau des recettes, c'est un joueur qui.
Ah là c'est bien dit.
Et faut le dire, c'est un joueur qui fait vendre énormément de maillot. C'est un joueur actuellement en première ligue qui défie toutes les statistiques. Il est actuellement à 19 buts toutes confondues, sachant qu'il vient juste d'arriver à Manchester City. Ça veut dire que dans les années à venir, ça sera un joueur qui va s'installer sur 10 ans, sur 10 prochaines années, il sera là. Ça veut dire qu'il va engranger encore plus de recettes. Donc forcément, 1 million d'euros, nous, dans le commun des mortels, quand on regarde comme ça, on se dit waouh, c'est beaucoup. Mais quand on regarde ce qu'il rapporte au club, forcément, il rapporte beaucoup plus. Faut pas oublier que les footballeurs sont des entreprises. Donc, comme dans la vraie vie, une entreprise paye ses salariés à la hauteur de ce qu'elle gagne. Donc, forcément, Haaland fait gagner beaucoup d'argent à Manchester City. Donc, forcément, il en gagne beaucoup aussi.
On poursuit avec Kamel.
Moi, je rejoins Claude et Alisson. C'est absurde parce que, comme on dit, la Première Ligue, elle prend les meilleurs joueurs du monde. Donc, pour ces droits télé, ça équivaut. Le dernier de Première Ligue, il touche 100 millions d'euros, alors que le premier de Ligue 1, Burritz, il touche 100 millions d'euros. Donc je veux dire, il y a un moment donné, plus tu ramènes des bons joueurs et les meilleurs joueurs du monde, plus tes droits télé, tu vas les payer. C'est les droits télé les plus chers du monde. Donc comme disait Alisson, Haaland rapporte des millions en marketing, en vente de maillots, etc. Et voilà, donc je veux dire, il faut arrêter, je veux dire... On parle pas du salaire des joueurs de NBA parce que là
de baseball aussi on parle de pas baseball, beaucoup de baseball mais
parce
baseball,
que parce que là on dit 50 millions d'euros mais y a, les joueurs de NBA gagnent plus de 50 millions d'euros, pourquoi on n'en parle pas? Alors, comme disait Claude, pourquoi on n'en parle pas? Donc je veux dire, parce qu'on parle du foot, je veux dire on rapporte ce sport à un sport quotidien, donc parce que il y a des joueurs amateurs, il faut non, je veux dire s'il les gagne il les prend et voilà basta. Mais après je veux dire Et puis par rapport à ce qui nous fait vibrer, etc. C'est magnifique. C'est un joueur magnifique. Et attention, tous ceux qui veulent des ballons d'or dans les prochaines années, falloir qu'ils reportent leur truc parce que ça va être Haaland qui va
Franchement. Allez, avec Vic Nesh et aussi Mourad. On vous écoute. Allez, vas-y Mourad.
Donc sur quel aspect tu veux échanger justement sur Alain? Sur l'aspect économique ou sur l'aspect sportif?
Surtout, même le marketplace. Ouais, même les marketplaces si tu veux.
Sur l'aspect, comme tu veux. Sur l'aspect économique, alors, moi, tout a été dit. Il y a des effets de vague. Que ce soit au niveau de la vente de maillots, du sponsoring, des droits TV pour la première ligue. Donc ça, c'est plus à discuter. Après, moi, je suis pour la rémunération à la, en fonction de la méritocratie. Aujourd'hui, Haaland, il a des objectifs. Forcément, dans son contrat, j'imagine qu'il a des bonus en fonction de l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, il les a clairement dépassés. La saison n'est même pas terminée. Ouais, donc le mérite. Le mérite
on est à peine au mois d'octobre.
Moi, je pense qu'il les mérite amplement. Après, Alicia, on a tout à fait raison. Dissension la réalité, notre société, de celle du foot business, qui est un cercle vertueux, et Dieu sait ce que représente le marché du foot business aujourd'hui, je crois, ne serait-ce qu'en France, je crois que c'est plus de 400 millions d'euros. Donc voilà, après, sur le plan sportif, Haaland, c'est un véritable argument pour Manchester City et Guardiola. Moi, c'est la première fois que je vois un joueur, justement. D'habitude, on parle souvent d'adaptabilité d'un joueur quand il arrive dans une équipe. Laissons-lui le temps de s'adapter, etc. Ouais. Et là, ah ben, y a toute l'intelligence de l'effectif de City, où c'est City et Guardiola qui ont su s'adapter directement à Haaland. Ouais, aujourd'hui, il a été introduit. Intéressant. Et l'équipe joue pour les qualités d'Haaland. Et en fait, ça va au-delà du foot business, au-delà de la rémunération, au-delà des pétitions, etc. Là, aujourd'hui, on assiste à une adaptabilité dont on n'a pas l'habitude de voir. C'est quelque chose d'autre. On entre dans ère nouvelle. Mbappé versus Haaland. Et ça va être quelque chose de nouveau. Et c'est les deux nouveaux monstres du football mondial.
Mais Knesh, on t'écoute concernant Erling Haaland.
Moi, je suis fier de lui déjà. Pour commencer, parce qu'en fait, il gagne autant ce qu'il le mérite. C'est aussi simple que ça. En fait, on lui passe l'argent, c'est une question de offre et demande. Ouais. On l'a réclamé, on lui a proposé, il a pris. On l'a pas forcé à gagner autant d'argent. C'est qu'il a, ça s'est négocié, il gagne autant. Bravo pour lui déjà. Et sur le plan sportif, c'est amplement mérité. En Norvège, à Salzbourg, à Dortmund, Man City, il est pratiquement à un but par match. Donc déjà, au niveau des stats, il a 23 ans. Il a pas 50 ans, il a 23 ans, le petit. Il est très jeune, il a des stats incroyables.
Hein. Non, mais pour dommage, surtout.
Non, j'aurais pas gagné 50 ans.
Dommage par les autres.
Bah ouais, bien sûr. On n'est pas tous le japonais là, qui joue en 4ème division. Ouais. Mais non, mais après, sur les stats, il n'y a rien à dire. Et après, en fait, c'est juste logique de gagner autant avec le foot business aujourd'hui, avec les droits TV en Angleterre. Et en plus, pour que Guardiola, il vous prenne, vous, en fait, attaquant de pointe, alors que Guardiola, il n'aime pas jouer avec un avant-centre. Donc pour que Guardiola il le choisisse, il dit toi tu viens, on va jouer pour toi, tu sais, c'est extraordinaire. Il fait pas ça avec n'importe qui. Et quand on le compare, à chaque fois il dit toujours Messi son meilleur joueur. Et là il me fait des compliments comme jamais avec Haaland. Et chaque fois il marque très vite, il marque énormément, il fait briller ses partenaires. Donc à partir de là, en fait, pour moi il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de débat. Le mec il gagne autant, bravo à lui, il répond sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus?
On peut pas comparer Haaland à Messi. Hein.
On peut... ouais, ouais, c'est...
Non, après au niveau des trucs.
Sur cette cadence-là, pour atteindre Messi et Cristiano Ronaldo, je crois qu'il doit encore marquer au moins pendant, sur cette cadence-là pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, autant de buts.
Sans compter, là on parle de l'aspect comptable, sans compter le contenu. Le
15 ans exactement. 15 années exactement.
Après Messi c'est un créateur, c'est un joueur.
Justement, Fala, bonsoir. Allez, avec nous Fala, on va revenir avec toi sur Haaland. À la suite
c'est
de mon radar.
Excusez-moi, c'est pas le débat sur Haaland.
Mais justement, bah, mais comment
j'ai compris la question.
Voilà, ça a beaucoup critiqué le salaire d'Erling Haaland en Angleterre. Il y a même une pétition qui a été faite.
Ouais,
voilà.
J'ai vu,
on compare
à
un robot, un cyborg.
J'ai envie de dire, quand Nasri a été transféré de Marseille à Arsenal, vous savez combien il est touché par semaine? Il est touché 700 000 euros par semaine.
Ouais.
Donc Haaland, il en touche 9 000, je crois. Oui, presque 1 million par semaine. Je vois pas, il y a quoi de choquant. Moi, pour moi, il y a rien de choquant. Si Nasri, il arrivait à toucher.
Nasri à l'époque. Hein.
Ouais, non, mais c'est juste pour dire que. Non, mais en fait, je crois qu'on a un problème. On compare beaucoup. Hein. On compare la première ligue et les autres championnats. La première ligue, ils n'ont pas les mêmes fonds que puisse avoir l'Italie, la France ou l'Espagne. Ils n'ont pas les mêmes fonds. On sait très bien que les droits TV, c'est la première chose qui fait que, on voit des salaires des joueurs, ils sont surcotés dans des salaires, dans des transferts où ils ne mériteraient pas ça. Maintenant, moi, pour Haaland, j'ai envie de dire, ouais, c'est bien. C'est bien, mais il est encore en retard sur un Ronaldo Nazario.
On savait que Fala était amoureux d'un phénoménal.
Pour moi, à 21 ans, il est phénoménal. Il avait déjà gagné une Coupe du Monde, un Ballon d'Or. Il avait mis 200 buts.
Mais les mecs, il a
pas Giovanni, le réalisateur.
Il a joué avec deux genoux en moins, surtout un. Il a joué avec deux genoux en moins. Et à 21 ans, le mec, il avait gagné une Coupe du Monde, un Ballon d'Or et 200 buts. Aujourd'hui, Haaland, ouais, il en a 173 buts et il n'a pas gagné encore une Coupe du Monde ou un Ballon d'Or. Non, mais après,
je veux bien que vous voulez faire des comparatifs.
Il y aura toujours des comparaisons.
Moi, il y a un choc, en fait, sur... Après, je ne sais pas d'où c'est sorti, ça, parce que j'ai vu cette semaine par rapport à...
Le salaire, il est vrai.
C'est le Daily Mail.
Ouais, c'est le Daily Mail. Il veut attaquer là où... Enfin, ça va faire parler, ça parle. Haaland, pour moi, il n'y a rien de choquant. 923
000. Je te fais un tout pour la presse anglaise. The Sun, c'est tout ce qui est affaire autour
du sexe.
Du sexe.
Giroud, il est bien passé pour savoir avec The Sun.
Alors, Alisson.
Non, mais juste pour revenir sur R9, déjà, sur R9, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de débat.
On a fait la comparaison.
Ils font le débat.
Non, mais je ne sais pas qui a osé faire une comparaison de Haaland, je ne sais pas quoi, R9. Il
n'y
a pas de débat. Comme ça, on s'arrête. Et puis, encore une fois, Haaland, malheureusement pour lui, enfin, je suis désolé, sans manquer de respect aux Norvégiens.
Bah oui, il
ne
pourra jamais gagner une Coupe du Monde.
À moi, après,
est-ce qu'on est sûr que c'est un immense mec là?
Après, voilà.
Les prochains futurs ballons d'or, moi je suis pas sûr à 200%.
Pas sûr.
Ah non, moi je vous le dis. Ce qui s'est passé entre Messi et Ronaldo, je pense qu'on reverra plus. Maintenant, on a deux extraterrestres.
Alors,
on a deux monstres qui sont Mbappé et Haaland qui vont se tirer la bourre. On verra
pareil.
Mais ce qu'ils ont fait, les deux, la barre, elle est trop haute.
Alors, c'est comme j'ai dit. Kamel. Alors, on écoute Kamel.
Avant de parler du Paris Saint-Germain. On peut pas comparer Mbappé à Haaland parce que Haaland il est actuellement 10 fois plus fort.
Pourquoi?
Parce que on le voit.
Pourquoi? Parce que demain Mbappé va mettre deux triplés en deux matchs. On va dire qu'il est au-dessus.
Mais pour l'instant il les a pas mis les triplés.
Mais la saison dernière Mbappé il était au-dessus.
Non, on parle de maintenant parce que donc après moi je souhaite à Mbappé d'être Ballon d'Or. Mais je veux dire la concurrence ça va être rude vis-à-vis
d'Haaland. Mbappé il a déjà une Coupe du Monde.
Oui mais
c'est pas mal. Du monde.
Je veux dire, au niveau de la Coupe du Monde, on peut pas en parler parce que sinon Drogba il aurait été champion du monde s'il n'avait pas été ivoirien. Non, mais c'est la vérité.
Je veux dire
sur la Coupe du Monde on peut pas parce que Giroud il est champion du monde, ça vaut pas un Wea, ça vaut pas un Mané, ça vaut pas un Drogba, etc. Donc je veux dire Guivarch aussi est champion du monde, ça c'est être né quelque part comme disait je sais plus quel chanteur, mais être né quelque part, donc voilà.
C'est Cornet, je crois.
On va passer du duel Ronaldo avec Messi, on arrive maintenant au duel Mbappé à Londres. Et moi je dis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne parce que plus ils vont se tirer la bourre et mieux ça sera pour nous les spectateurs et les fanatiques.
Qui est devant qui? Mbappé il est plus devant Haaland ou Haaland est devant Mbappé? Parce que
ça dépend pour
moi je suis pas sûr que l'année prochaine Guardiola il reste à City.
Si Mbappé veut passer un pas, faut qu'il quitte le PSG, faut qu'il aille au Real Madrid.
On va revenir sur le Paris Saint-Germain. On a le temps là pour parler du Paris Saint-Germain. Alors, on va essayer de parler du Paris Saint-Germain. Allez.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, ça fait-on réagir depuis cet après-midi, hein. Benfica, Paris Saint-Germain, en phase de poule.
On est qu'au mois d'octobre.
Voilà, ça le fait sourire, ça c'est bien. On n'était pas loin, je cite, du viol. Des supporters parisiens dénoncent des fouilles trop poussées du côté de Lisbonne. Alison, on t'écoute. C'est vrai que l'info a fait, ça fait réagir toute la, j'allais dire la tutosphère, mais pas que. Aussi sur les réseaux sociaux, ouais, sur la toile, hein, sur Internet et même chez tous nos confrères.
Effectivement, alors, le staff du, en tout cas, la sécurité de Lisbonne. Palpé de manière insistante les supporters du Paris Saint-Germain, mais j'ai envie de vous dire, et je vais être très pragmatique, j'ai envie de vous dire, vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, ouais. Effectivement, je trouve ça intrusif, effectivement, je trouve ça même invasif. Bon, mais
il y a eu des témoignages quand même, ça. Ça donne la chair de poule.
Parce que si ça avait été le contraire, il serait rentré avec des banderoles ou des objets dangereux, on aurait dit quoi, oui, mais ils n'ont pas fait leur travail. Voilà, effectivement, ça a été excessif. Mais moi, je comprends ce sentiment de malaisance qu'ont subi les supporters, mais voilà. Après, il y a pas de preuves matérielles, en tout cas pour l'instant, malheureusement.
Si les joueurs,
il y a des récits de fans éprouvés, choqués quand même, les fans du Paris Saint-Germain.
Il y a pas de preuves matérielles, malheureusement, donc ça joue en leur défaveur, c'est parole contre parole, quoi.
Mais après, j'ai envie de dire, si c'est pour une question de fouille, pour limiter des objets qui pourraient rentrer. Je crois qu'ils sont un peu naïfs parce que moi j'étais dans le COP des supporters parisiens à l'époque et pendant des années. Et la première chose qu'on faisait pour pouvoir rentrer des fumigènes ou quoi que ce soit, c'était nous les COP des supporters. On avait accès au stade 2-3 heures avant pour pouvoir mettre en place les choses. Les et COP, à partir de là, on se faisait pas fouiller. Parce qu'on était accès libre et je donnerai pas des techniques, mais des techniques pour faire rentrer.
Non, mais il faut pas. Mais quand même.
En fait, c'est un problème parce qu'en fait, c'est la France qui est pointée du doigt parce que soi-disant les supporters français aujourd'hui se tiennent pas correct.
Exactement.
C'est ça en fait. C'est plus ça. Mais je crois les Portugais, je crois, ils ont pas de leçon.
On va marquer d'une dernière pause et on va revenir pour reparler de ces témoignages de supporters parisiens du côté de Lisbonne. Sans oublier aussi Franck Ribéry. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
FM, on se vendredi 7 octobre, toujours en compagnie d'Alison, de Fala, il y a Mourad, Kamel, Presidente, et aussi notre consultant Viknesh. Voilà, Viknesh, il est toujours là, tranquillement. On va donner la parole, on va revenir sur ce fait marquant. Benfica, PSG avec toi, Mourad, hein, justement.
Oui, pour moi c'est à classer dans la rubrique fait divers. On a fait des blagues un peu salaces
c'est sérieux, Mourad, hein.
Non, mais là c'est un sujet sérieux, effectivement.
Vraiment,
c'est bien. C'est bien les stadiers de la Louse, justement du côté du Benfica. Donc là je suis d'accord, c'est un événement tragique. Voilà,
on peut
ce qui
le
s'est
dire.
Passé. On compatit avec notamment Paul qui s'est exprimé, etc. Mais aujourd'hui pour moi je le classe dans la rubrique fait divers dans la mesure où il y a un match retour au Parc des Princes.
C'est vrai.
Peut-être que ça peut envenimer les choses, d'accord. Si on émet des rumeurs sans preuve, etc.
Sachant que la communauté...
ça peut être beaucoup plus important, voire pire, au Parc des Princes, ce qui peut se passer. Donc ça peut pas être des fouilles abusives, ça pourra même aller peut-être à des affrontements.
Faut
faire très attention. Après, moi je suis pour identifier ces stadiers. Il y a du recours juridique, il doit y avoir des caméras, etc. Identifier ces stadiers, et ensuite c'est de l'ordre de la loi, de la justice.
Je suis d'accord avec
prendre des mesures. C'est tout.
Alors, vas-y,
j'ai pas envie de dire, parce qu'il y a Fala qui me pousse à faire des blagues salaces.
Arrête, Fala.
Ils ont essayé de mettre la lumière sur quelque chose. Bon, ça n'a pas bien pris, ils n'ont pas.
Non, mais arrête, Fala. Mais non, on a recueilli des récits de ces fans qui ont été éprouvés.
Parce que Mourad, il a soulevé quelque chose de très important. Ça vient surtout des stadiers. On sait très bien que la plupart des stadiers, c'est des gens qui sont à mi-temps. Le lundi-semaine, il est au travail et le week-end, il vient pour le plaisir.
Vas-y, Kamel.
Normalement, dans les stadiers, il y a des process de fouille au corps. Faut pas faire n'importe quoi. Ils sont pas en garde à vue ou ils vont pas en prison. Donc il y a un minimum à respecter. Je veux dire par rapport à ce que le supporter il a dit. C'est vraiment grave parce que en vérité pourquoi je vais dire que c'est vrai. Moi je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai parce que les supporters parisiens. Ils ont fait des dizaines, des centaines de matchs à l'extérieur. Il n'y a jamais eu ça.
Ouais, vrai,
donc là, si le point du doigt, c'est que ça les a choqués. Et
c'est le cas de
c'est arrivé. C'est arrivé. Donc je veux dire, franchement, non, moi personnellement, c'est moi pour moi, c'est un sujet qui est très grave. Parce qu'on parle, on parle en France des bien attouchements sûr. Sexuels, etc.
C'est vrai.
Mais là
c'est vrai.
Et ça doit être.
Merci, Kamel.
Ça doit être en passe de faire justice, quoi.
Ah ben justement, on va écouter Viknesh. On va en revenir à toi, là.
Ouais, j'ai pas de diplôme en justice, mais bon. Après, oui, en fait, ce qui est passé, c'est inacceptable. Sur ça, on va pas dire le contraire.
Bien sûr.
En fait, il y a des règles, il y a des choses à faire quand on fouille, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc là, ils ont dépassé les bords. Donc à ce niveau-là, les stadiers en question, ils doivent être sanctionnés, ils doivent prendre des choses en cette faveur-là. Mais après, en fait, là, la conclusion de ça, en fait, c'est la réputation des supporters français aujourd'hui. Chaque fois, on a tout le temps des problèmes en France, dans les tribunes. Et du coup, quand on va à l'étranger, les gens voient ça au quotidien, ils voient ce qui se passe en France. Et du coup, ils se disent, eux, c'est des supporters dangereux. Du coup, il faut les. Vérifier peut-être un peu plus que la limite. Et du coup, c'est ça le problème, en fait. Il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et là, en fait, c'est pas normal de faire des choses comme ça.
On parle d'un sujet assez grave avec Mesh.
C'est très grave. Mais surtout que là, actuellement, il y a des
supporters parisiens qui ont été humiliés par des stadiers.
Ben, c'est pas
normal. Ont été pestés certains comptes de supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux aussi.
Ben, il y a Philippe, un des membres du CUP qui a témoigné. Il y a Paolo aussi qui a témoigné, un des supporters du PSG.
En plus, c'est la première fois.
Moi, j'ai des amis qui étaient présents, justement, à Lisbonne et qui ont. Il y a eu des bruits là-bas sur place qu'il y avait des fouilles abusives de la part des stadiers du Benfica.
Là, la question.
Alors, voilà.
Non, mais c'est vrai.
On peut arriver dans un problème très grave.
C'est l'UEFA qui doit
prendre des sanctions. C'est un match de Coupe d'Europe. Il n'y a pas tort, quand même.
C'est à ce moment-là. On sait très bien, elle bouge pas. On voit bien ce qui se passe avec le racisme, donc je vois pas pourquoi ça devrait faire bouger les choses. La question, ça peut être un peu plus grave. Parce que si demain ça s'avère que c'est vraiment vrai et qu'il y a une procédure qui est
mise en place. On n'a pas l'air de mentir les supporters.
Non, mais là, on va commencer à parler.
Mais pourquoi ils diraient ça pour rigoler
en fait. C'est des viols,
non. Mais là, on va commencer à parler.
Bien sûr.
Est-ce que les supporters ont dit c'est des viols.
Mais c'est pour ça que je dis si demain il y a une procédure qui est lancée.
Selon les supporters présents parisiens.
10 supporters parisiens qui ont déclaré que les fouilles étaient abusives, voire même excessives.
Plus qu'abusives.
Même plus qu'abusives, voire extrêmes. Si demain ça s'avère que c'est réel et qu'il y a procédure, demain on va parler de viol.
Je cite, elle a commencé à passer sa main sous mon soutien-gorge et elle a insisté, carrément. C'est fou quand même
ce qui s'est passé,
c'est assez fou.
Non, c'est fou. Après, effectivement, faut toujours parler au conditionnel parce que, comme je le disais, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas avérer ces faits, malheureusement, encore une fois. Mais là, on parlerait éventuellement, peut-être pas de viol, mais on parlerait
en c'est un viol.
Non, on parlerait pas de viol. On parlerait d'agression sexuelle si ces faits sont avérés. C'est pas du tout la même chose.
Non, j'ai lu.
Tentative de viol.
C'est pas du tout la même chose. Je vais pas dire n'importe quoi non plus.
Il va s'acheter une visite médicale offerte.
Non, mais arrête. Arrête quand même.
Je dément ses paroles.
Alors,
D'un point de vue légal, pour l'instant, on sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'affaire s'avère être vraie, c'est très grave. Mais dans la mesure, en tout cas, où pour le moment on doute, il serait légitime pour l'UEFA de lancer une procédure.
Allison, les supporters parisiens ne vont pas à chaque fois voir des matchs à l'extérieur et dire qu'ils sont fait violer. C'est la première fois que ça arrive. Quand tu dis c'est une question de parole. Quand une femme va dans un commissariat et se dit se fait violer. Bah à ce moment-là, c'est une question de parole.
Alors, on a une auditrice, le 01-53-48-3000, Kamel, on va la faire réagir. Allez, c'est... Bonsoir Anna, on vous écoute.
C'est pas du tout ce que je dis.
Bonsoir toute la team Time Sport, et puis bonne rentrée à Kamel. On est très content de vous retrouver à l'antenne, Kamel.
Merci beaucoup, Anna. Merci.
Ça va ?
Ça va, merci.
Oui, ça va.
Alors moi, je suis quand même assez choquée que personne ne soit choqué par ce qui s'est passé. Parce que, heureusement que Kamel est concerné, et je crois qu'il est un peu tout seul dans son coin, excusez-moi.
Tout le monde était concerné, là, Anna, quand même.
Là, mais quand même, je trouve qu'en fait, enfin, on est là en train de dire oui, mais les supporters français, ils ont une mauvaise réputation, ils se comportent mal, mais quand bien même.
L'auditeur, on laisse l'auditrice, s'il vous plaît.
Il faut tout de suite mener une enquête sur ce qui s'est passé, bien entendu. Je doute fort quand même que les supporters français aient menti. Enfin, je pense pas qu'ils s'amusent à mentir sur un sujet aussi grave. Enfin, ça m'étonnerait. Quand bien même, il faut quand même mener une enquête. Mais pour moi, il faut pas du tout laisser passer ce genre de comportement. Et effectivement, s'ils doivent renforcer la sécurité dans les stades, il y a plein de moyens, des détecteurs de métaux, etc. Mais on n'a pas besoin de baisser le froc d'un mec et d'aller passer ce qu'il a à ses bijoux de famille. Et enfin, c'est quand même très grave, quoi. Je veux dire, pour moi, là, on a dépassé le. Enfin, moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse en arriver là, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, on est là pour aller voir un match de foot et on se retrouve touché de partout. Enfin, pour moi, c'est inacceptable. Enfin, c'est très grave, quoi.
Alors, on va avoir une réaction de la consultante. Merci, Anna. C'est Alison.
En quelques mots, c'est pas du tout ce qu'on a dit. On dit que effectivement, ces faits s'avèrent être très graves. On pense que les supporters parisiens ne mentent pas du tout parce que ce n'est pas le premier déplacement qu'ils font à l'extérieur. Oui. Et de tels faits ne se sont jamais passés. En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'on parle au conditionnel parce que effectivement, il n'y a aucun matériel à l'heure où on se parle et que on peut pas affirmer pour l'instant des choses, de telles allégations, de telles accusations, alors qu'on n'a pas de preuves matérielles. Effectivement, on est scandalisé quand on passe la main sous le t-shirt d'une femme. C'est scandaleux quand on baisse le pantalon d'un mec pour aucune raison. Il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas en garde à vue, que je sache, les stadiers ne sont pas des proctologues, donc ils n'ont aucune raison d'aller fouiller dans son derrière. Oui, on est scandalisé, mais ne faites pas dire quand même ce qu'on n'a pas dit.
Je pense que les supporters français et un petit peu plus du Paris Saint-Germain, mais sinon je parle en général, on paye l'image qu'on a en France.
Exactement.
Des supporters. Pour qu'on en arrive là, qu'au Portugal,
bien sûr,
eux réagissent comme
en
ça.
Mais jamais eu de problème au Portugal.
On véhicule une mauvaise image des supporters.
L'image,
je crois qu'en fait, les Portugais, ils ont une mauvaise impression, une mauvaise image des supporters français. Normalement, les supporters. Les stadiers qu'on.
Non, je pense.
Ils doivent être sanctionnés. Faut que le club du Benfica prenne des mesures parce que si demain les 10 supporters français là, du Paris Saint-Germain portent une porte-plainte contre le club de Benfica, je vous dis, demain Benfica, ils vont prendre les mesures pour pas que ça
leur tombe dessus.
Ça, c'est sûr. Parce que ça reste à titre personnel.
Alors,
les stadiers, comme je vous dis, c'est pas des employés.
Ils ont des procès.
Kamel, rapidement, avant de redonner la parole à Anna, et on va prendre aussi Moustapha qui nous appelle.
Ce que je veux dire, alors je suis d'accord, Alison, on est bien d'accord, aujourd'hui les faits ne sont pas avérés, il faut mener une enquête, etc. Malheureusement, on sait que ce genre d'investigation, d'enquête, ça peut prendre énormément de temps. Voilà, on sait très bien que le temps que ça se déclenche chez eux, qu'ils mettent en place une procédure, etc., ça risque de prendre un an. Enfin, on ne sait pas. Mais en même temps, quand bien même les Fala, pour rejoindre ce que tu dis, même si les Français ont un comportement déplorable et qu'ils ne savent pas se tenir dans un stade, c'est un peu, moi je fais l'analogie, un petit peu comme si on disait, bah voilà, il y a une fille qui se balade avec une mini-jupe, donc non, c'est pas grave, elle a des
mini-jupes pour faire violer.
Merci Anna.
Là, on va parler de. On va commencer à parler de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Allez. Et c'est ça que j'ai
alerté dessus, justement. On enchaîne avec Mourad. Un grand merci à Anna, l'auditrice, de nous avoir appelé.
Merci Anna, en tout cas, d'élever le débat. Nous, simplement, moi, on parlait au conditionnel et moi, en amont, je parle pour ma personne, je préconisais justement de prendre des pincettes parce qu'il y a un match retour.
On en parlait de ce match retour.
Prendre des actions immédiates, si on peut le faire. Si des caméras CCTV existent, prendre des actions immédiates. Dans le cas, prendre les plaintes justement des victimes et annoncer, faire un communiqué auprès du club que le dossier a été pris et considéré en interne. Parce que le match retour, ça peut-être dégénérer plus que des fouilles abusives ou des agressions sexuelles. On l'a vu, ça s'est passé dans l'histoire du Paris Saint-Germain aux alentours du Parc des Princes. Donc moi, c'est simplement ça, c'est tempérer, temporiser avant de prendre des décisions.
Allez, le 01-53-48-3000, on a Moustapha qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Moustapha. Oui, allô Moustapha.
Oh, Mousse.
Moustapha, il n'est pas là. Alors, il n'est pas là, Moustapha, ça fait rien. Oui, Fala, il avait quelque chose à dire.
Non, allez, rapidement, pour souligner ce que Mourad disait, c'est. Moi, je le rejoins absolument. Donc je sais pas ce que j'avais
non, dit. Mais, ouais, non,
mais c'est vendredi soir.
Non, mais je comprends ce que veut dire Mourad, mais c'est pas je veux dire match retour, c'est pas les supporters qui sont visés, tu vois.
C'est juste les stades d'état de la part des supporters.
C'est les stadiers. Il faut qu'on briefe nos stadiers au Parc des Princes pour
je pense qu'ils sont assez matures.
Ils sont assez matures et qu'ils sont professionnels. Je veux dire, il va rien se passer.
Les stadiers parisiens ne mettent pas d'avis abusif sur les supporters du Benfica. Le but étant qu'il n'y ait pas de vendetta de la part des supporters.
Non, parce que c'est les stadiers, c'est pas les supporters.
Une poignée de couillon peut impacter négativement
l'image. Ou alors le contraire.
Et ensuite, ça peut impacter le parcours de Paris Saint-Germain.
Ou alors le contraire aussi, que les supporters du Benfica, parce que il y a eu ces allégations, exactement, qui viennent pour se venger.
Et en fait, ça peut se faire dans ce sens-là aussi.
Mais les victimes vont être entendues.
Non, bien sûr. Mais c'est qu'à Paris, en Île-de-France, la communauté portugaise est incroyable.
Bah oui.
Elle est là, elle est bien présente.
Elle est présente, c'est-à-dire bien que sûr. Mourad, il a exactement raison de souligner ça, c'est qu'au match retour.
En tout cas, on gardera un œil de près des débordements concernant ces débordements. Un grand merci à Fala, Alison, sans oublier Kamel, à Viknesh et aussi Mourad. Oui, Mourad. Allez, une petite dédicace, Mourad, rapide.
À Loubna, Fatima et Zidane qui nous écoutent.
Ah ben voilà, voilà, à tout le monde. Ah ben voilà, ça c'est fait. Oui. Mais rapidement, enfin là, j'ai pas le temps de faire des
Parler, c'est
mais bon, tu parles de tel phénomène, en direct, Stéphane Guivarch.
Mais non, allez, ça va en prendre 10 aussi.
Mais Fala, vas-y, je perds du temps là, je dois rendre l'antenne.
Non, c'est demain, pour tous les amoureux de football qui veulent voir les anciens du Paris Saint-Germain, je vous donne rendez-vous à Rueil-Malmaison. De 13h jusqu'à 18h, il y aura un match de gala avec
demain.
Fabrice Alipré, Wally Dieng. Oui, demain.
C'est ça, demain.
Le 8 octobre, c'est le 8 octobre.
C'est demain.
Stade de Rueil.
Voilà. Avec Wally.
Vous pourrez croiser des anciens joueurs, Daniel Bravo.
On y sera, Fala.
Moi, en tout cas,
on y sera. Voilà, Fala, il sera. Vous pouvez le rencontrer. Un grand merci, Fala. Et la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa, 21h, 23h. Bye bye. Très bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.